Angine de poitrine, Monique Kirouac, merci donc de nous offrir la chance de faire entendre Angine de poitrine à nos auditeurs et auditrices. Vous allez en parler. Pourquoi on aime une musique qu'on ne comprend pas vraiment? Vous avez trouvé ce texte dans la conversation.
Oui, du 3 juin dernier, et comme je disais, c'est sous la plume de notre professeur qui s'appelle Oliver Cyrano Leon, et donc qui enseigne à la maîtrise en psychologie à l'Universidad Europea de Madrid. Alors, bon, si on accède à une vidéo, par exemple sur YouTube, ben, à l'écran apparaissent deux personnages masqués dont l'esthétique oscille entre l'artisanal, l'absurde et l'inquiétant. Ils commencent à jouer. La guitare ne sonne pas comme on s'y attendrait. Certaines notes semblent se loger entre les notes que nous connaissons. La batterie avance avec précision, mais pas toujours sur des chemins prévisibles. La première réaction est la perplexité. La deuxième, la curiosité. Et avant même de l'avoir dessinée, on continue à regarder. C'est en partie ce qui explique le phénomène récent d'Angine de poitrine, un duo expérimental québécois qui s'est particulièrement fait remarquer par sa combinaison de rock mathématique, de masques en papier mâché, d'humour surréaliste et d'utilisation de guitares microtonales. Leur passage à KEXP, K-E-X-P, en a fait une curiosité virale, non seulement pour leur son, mais aussi pour la difficulté de les ranger dans une case connue. Du point de vue de la psychologie, ce cas est fascinant, car il nous force à poser une question plus large. Pourquoi peut-on aimer une musique qu'on ne sait pas, au départ, comment interpréter? Alors, revenons toujours à notre cerveau. Écouter de la musique, ce n'est pas recevoir des sons passivement. Le cerveau anticipe. Il s'attend à ce qu'une mélodie continue dans une certaine direction, à ce qu'une tension harmonique se résolve, à ce qu'un rythme retombe à un moment donné. Une grande partie du plaisir musical vient de ce jeu délicat entre confirmation et surprise. Quand tout est trop prévisible, la musique s'aplatit. Quand tout est trop imprévisible, ben elle bascule dans le chaos. Entre ces deux extrêmes, se trouve une zone particulièrement fertile, la musique qui défie nos attentes sans pour autant les détruire. Des études sur la prévisibilité, l'incertitude et le plaisir musical ont montré que nous tendons à préférer des niveaux intermédiaires de complexité. Suffisamment d'ordre pour nous orienter, suffisamment de surprises pour nous tenir en haleine. Et c'est précisément ce terrain qu'Angine de poitrine occupe. Leurs chansons peuvent sembler étranges, mais elles ne sont pas du pur désordre. Il y a de la répétition, du rythme, des motifs, une énergie physique. La batterie offre une structure reconnaissable, tandis que la guitare instille une sensation d'instabilité. Le résultat, ben, c'est un mélange psychologiquement efficace. L'auditeur ne saisit pas tout à fait ce qui se passe, mais il n'est pas non plus complètement perdu. Alors revenons à la guitare, parce qu'on parle de microtons. Alors l'utilisation des microtons mérite qu'on s'y attarde. Dans la musique occidentale courante, l'octave est divisée en 12 demi-tons. Le piano, la guitare standard et la grande majorité de la pop s'inscrivent dans ce cadre. La musique microtonale, elle, utilise des intervalles plus petits ou différents de ceux qu'impose ce système. C'est pourquoi une guitare microtonale peut sembler, à la première écoute, désaccordée. Mais cette impression ne signifie pas nécessairement qu'elle l'est. Elle signifie que le cerveau compare ce qu'il entend à ses schémas antérieurs. Si une note atterrit là où notre oreille façonnée par notre culture ne l'attendait pas, ben qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons l'interpréter comme une bizarrerie, une tension, voire une erreur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Parce que c'est pas ce que fait Angine de poitrine. Mais c'est éliminer le malaise. Ce qu'ils font, c'est l'intégrer à l'expérience. Cela rejoint une idée centrale de la psychologie de la musique. Le plaisir ne vient pas uniquement de ce qui est agréable, doux ou familier. Il peut aussi naître de la tension, de l'ambiguïté et de la résolution partielle, d'une attente. La musique active des circuits cérébraux liés à la récompense, à l'anticipation et à l'émotion. Des études en neurosciences sur le plaisir musical et la prédiction ont suggéré que ce plaisir surgit quand le cerveau détecte des schémas, génère des attentes, puis constate des écarts significatifs par rapport à celles-ci. Ce n'est pas seulement ce qui sonne bien qui nous touche, c'est ce qui nous oblige à réorganiser ce que nous nous attendions à entendre. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire cette réorganisation. C'est pourquoi une proposition apparemment difficile peut devenir addictive. La première écoute produit l'étrangeté. La deuxième permet de reconnaître un motif. La troisième transforme l'étrange en familier. Et au fil de ce parcours, le cerveau récolte une petite récompense. Il a partiellement apprivoisé le chaos. Angine de poitrine, ce n'est pas que du son. C'est de l'image, du geste, du théâtre, des personnages. Les masques, l'esthétique absurde et la présence physique des interprètes influencent la façon dont on écoute. Des chercheurs sur la perception musicale en tant qu'expérience multisensorielle ont montré que les éléments visuels d'une performance ne sont pas de simples ornements. Ils peuvent modifier l'interprétation émotionnelle, structurelle et esthétique de ce qu'on entend. Ce n'est pas pareil d'écouter une pièce microtonale hors contexte et de la voir jouer par deux personnages qui semblent sortir tout droit d'un rituel à la fois comique et artisanal. L'image peut servir de clé de lecture. Ce n'est pas une erreur, c'est un jeu. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de l'intention. Ce n'est pas du bruit, c'est un langage. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que l'information visuelle influe sur l'évaluation d'une performance musicale et que les gestes de l'interprète modifient ce que nous percevons. Alors, je fais une petite parenthèse, Hélène, parce que j'ai tout de même été regarder la vidéo qui a été captée justement à Rennes. Mm-hmm. Et c'est tout à fait juste. Quand on les regarde attentivement, on voit bien qu'il y a une complicité entre les deux musiciens. Observer les pieds, du guitariste, c'est quelque chose.
Ah oui, hein?
Oui.
Des jeux de pédales.
Des jeux de pédales. Alors, on sait qu'il va enregistrer certains sons qui vont revenir en récurrence. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Alors, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Dans un écosystème saturé de musique lisse, et de recommandations algorithmiques, cette dimension physique et scénique prend tout son sens. Angine de poitrine semble offrir quelque chose de difficile à simuler, la présence, la singularité manuelle, l'imperfection signifiante. Le succès d'Angine de poitrine tient peut-être à un paradoxe contemporain. Jamais nous n'avons eu accès à autant de musique, et pourtant, une grande partie de l'expérience culturelle semble de plus en plus optimisée pour ne pas déranger. Les plateformes apprennent nos préférences et nous renvoient des variations de ce que nous aimions déjà. La surprise est administrée à dose homéopathique. Angine de poitrine ne prouve pas que tout ce qui est étrange finit par plaire. La singularité seule ne suffit pas. Ce qui fonctionne, c'est la combinaison. Déviation et structure, microton et groove, masque et précision, déconcertement et plaisir physique. Au fond, ce n'est peut-être pas malgré notre incompréhension que nous aimons cette musique. C'est grâce à elle. Alors voilà, peut-être que vous apprécierez, si vous ne le faisiez pas avant, cette musique un peu hors du commun.
Absolument. Angine de poitrine, j'étais sur leur site, anginedepoitrine.com, et je me dis, ils vont devoir engager une doublure. Ils sont partout, partout, de Joliette au Japon, en passant par Montréal, Saguenay, Los Angeles, Portugal. C'est affolant de voir toutes les dates. Alors, j'espère qu'ils vont quand même prendre le temps. Je parle d'eux au pluriel parce qu'ils sont deux. Mais j'espère que le duo aura le temps quand même de souffler un peu, là. Ils ont beau aimer ce qu'ils font.
Et puis, les billets se vendent en quelques minutes. Hein, oui. Hélène, c'est vraiment...
Renversant, c'est un phénomène.
Oui.
On va écouter une autre pièce.
Oui. L'article nous incite aussi à... Nous permet, en fait, de mieux comprendre de quoi il s'agit, oui. De qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, en fait.
Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler, comme vous disiez, peut-être que certaines personnes ont vécu sous une roche ces derniers temps, mais on peut voir, profiter de la vidéo sur YouTube. C'est à partir de cette vidéo-là, ce spectacle-là, où tout a commencé, où le groupe a été propulsé. Et on va entendre... C'est quoi la pièce, Mathieu?
Fabienque.